Nous prions. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte et cet appel que tu nous as adressé à venir te rendre gloire. Merci, Seigneur, pour la façon dont tu nous enseignes à travers ta parole, mais aussi à travers nos frères et sœurs. Merci maintenant, Seigneur, pour ce temps où tu veux nous parler, nous dire quelque chose de ta part. Et Seigneur, nous voulons être complètement disponibles entre tes mains. Nous voulons non seulement t'entendre, mais aussi t'écouter et être en capacité de mettre en pratique ce que tu as à nous dire. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit donner, nous faire la grâce d'avoir les cœurs ouverts, attentifs et réceptifs. Dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, avec le psaume 90, nous avons contemplé ensemble la fidélité de Dieu qui, par sa parole, nous a rappelé l'importance de bien compter nos jours. En ce début d'année, nous avions convenu que la meilleure des résolutions était de tout faire pour la gloire de Dieu. Or, il y a beaucoup d'obstacles. Nous sommes bien trop préoccupés par autre chose que sa gloire, en réalité. Nous sommes d'abord préoccupés par nous-mêmes, par notre santé, par notre travail, notre famille, etc. Nous pouvons également être préoccupés par le monde et les nouvelles que nous en recevons, qui, il faut bien le dire, ne sont pas quand même très réjouissantes. Épidémie, guerre, violence, valeurs bafouées, perte de repères, problèmes d'éducation, atteintes sexuelles, etc. Et toutes ces choses, en fait, sont comme un écran épais et puissant qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Or, je le crois fermement, notre bonheur et notre santé mentale, c'est un mot qui est à la mode, hein, notre assurance et notre paix passent par la contemplation de la gloire de Dieu. Et donc, notre capacité à détourner nos yeux de cet écran qui est devant nous pour les fixer sur l'Éternel, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous faut donc être davantage préoccupés par la gloire de Dieu que par nous-mêmes ou le monde qui nous entoure. Et ce n'est pas pour être déconnecté comme un doux rêveur qui serait complètement décalé, mais c'est pour être pleinement rempli du Seigneur et donc à même d'être, pour tous ceux qui nous entourent, un témoin de sa gloire et de son œuvre, un témoin de sa grâce et de son amour, un témoin de sa justice et de sa miséricorde. Et quand on est rempli du Seigneur, je crois que Dieu change le monde à travers nous. Et nous aussi, nous sommes transformés, nous approchant chaque jour davantage de l'image parfaite qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu. Alors si notre bonheur passe, comme je le crois, par la contemplation de la gloire de Dieu, eh bien la bonne nouvelle qui nous parvient par l'Écriture ce matin, c'est que le Dieu trois fois saint révèle sa gloire et tout homme la verra. Je vous invite à suivre avec moi la lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les versets 1 à 11, et j'invite les quatre voix à venir me rejoindre.
Consolez, consolez mon peuple.
Dis votre Dieu.
Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés.
Une voix crie dans le désert.
Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Une voix dit « Crie !» Et l'on répond «
Que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement.
Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda.
Voici votre Dieu, voici mon Seigneur éternel. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent.
Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu ce matin. Ésaïe, dont le nom signifie « l'Éternel sauve », c'est d'ailleurs le cœur de son message, exerce son ministère pendant plus de 40 ans. Et dans les dernières années, le ministère d'encouragement d'Ésaïe s'est concentré sur le petit reste qui survivrait à l'exil de Juda à Babylone. Ésaïe prédit la chute de la Babylone païenne et le retour du reste d'exil, du reste d'Israël, pardon, dans le pays promis. Mais au-delà de ça, il prédit aussi la venue d'un serviteur et d'un sauveur bien plus grand que Cyrus, dont il est question au moment de Babylone. Ce serviteur apporterait la justice aux nations en apportant la lumière pour tous. Il souffrirait volontairement pour effacer les péchés de son peuple et ainsi établir une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament reconnaît et identifie ce serviteur souffrant dans la personne de Jésus-Christ, Dieu avec nous. Avec ce chapitre 40 débute la deuxième partie du livre d'Ésaïe, souvent appelé « livre de la consolation », en raison notamment des premiers mots du chapitre. Et Dieu y est présenté comme dans l'ensemble de ce livre, comme saint, majestueux, glorieux et souverain. Comme dans la majorité des écrits prophétiques, les oracles se lisent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord celui des auditeurs directs du prophète, à qui il est annoncé la délivrance prochaine de l'exil à Babylone avec la figure de Cyrus et le retour au pays promis. S'ajoute à cela souvent un parallèle sur l'histoire passée, en l'occurrence Moïse et l'exode d'Égypte. Le deuxième niveau, c'est celui d'un futur prochain qui reprend le thème de la délivrance et qui l'éclaire d'une manière nouvelle avec la figure de Jésus-Christ, le Messie de l'Éternel, Dieu avec nous, qui nous libère de l'esclavage du péché. Et le troisième niveau est celui d'un futur plus lointain, lié au jour de l'Éternel et donc à la fin des temps, avec là l'idée d'un nouvel exode vers la patrie céleste et l'attente du retour du Seigneur Jésus en gloire. Ainsi, bien au-delà d'une délivrance de l'exil, ce qui est annoncé ici, c'est la venue de Dieu dans l'histoire des hommes, sa manifestation et sa révélation aux yeux de tous les peuples. Ce sont eux qui doivent voir que la bouche du Seigneur a parlé. Et c'est parce que nous reconnaissons Dieu comme saint, majestueux, glorieux et souverain que cette parole venant de lui a du poids. Dans le texte d'Ésaïe, comme vous l'avez entendu à la lecture, nous trouvons quatre cris, quatre voix, pour quatre sections de texte. Le premier cri est celui de la consolation. Je suppose qu'il vous est déjà arrivé de voir quelqu'un bouleversé et de le prendre dans vos bras pour le consoler. Cela a pu se produire avec un enfant qui s'est fait mal, par exemple, avec un adolescent qui vit une peine de cœur, ou encore avec un de vos amis qui a perdu un proche, par exemple. Si cela vous est déjà arrivé, vous pouvez vous remémorer ce que vous avez éprouvé face au bouleversement de cette personne. Et le naturel, certainement, avec lequel vous avez ouvert vos bras pour offrir la consolation. Peut-être qu'à l'inverse, vous vous souvenez avoir été vous-même consolé par quelqu'un au moment où vous en aviez vraiment besoin. Eh bien, comprenez maintenant que c'est exactement ce que fait Dieu dans notre passage. Et c'est ce qu'il veut faire dans nos vies, à chaque fois que nous en avons besoin. Dieu voit, entend, perçoit la souffrance de son peuple et il ouvre ses bras pour consoler, si l'on peut dire. Cette consolation, Dieu va parfois la porter par le biais d'autres croyants qui seront, à cette occasion, on pourrait dire, les bras de Dieu. Le Nouveau Testament nous apprend également que Dieu est consolateur, avec un grand C, et que ce ministère spécifique est celui du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que par l'intervention de son Esprit en nous, Dieu nous console. Et il le fait directement au creux de nos cœurs, d'une manière évidemment qui est mystérieuse. Dieu parle à nos cœurs et nous dit, comme on le ferait nous-mêmes en consolant un enfant par exemple, voilà, c'est fini, ça va aller. Ce n'est pas une consolation à bon marché. Ce n'est pas une consolation à la va-vite. C'est une consolation profonde qui est liée à la réconciliation. Nous disons, comme il est dit dans ce texte, que le combat est terminé, que la faute est expiée, que la dette est payée. Et c'est appuyé par le choix des termes « mon peuple »,« votre Dieu » qui rappelle l'alliance. Et d'ailleurs, le terme hébreu qui est traduit par « consoler » signifie aussi « réhabiliter ». Vous voyez que ça va plus loin. Ce n'est pas juste sécher nos larmes. C'est une consolation qui nous remet debout. Deuxième cri, la repentance. La réhabilitation qui s'annonce suppose une transformation et une préparation. Il faut préparer le chemin, nous dit le texte. Ces mots, on les connaît bien parce qu'ils sont cités dans l'Évangile pour parler du ministère de Jean, le Baptiste. Et Jean invite le peuple à se préparer à la venue du Christ. Le message de Jean, nous le savons, est un appel à la repentance. Car nous ne pouvons pas espérer changer si nous ne reconnaissons pas premièrement l'état qui est le nôtre. C'est ce que le pasteur Charles Nicolas appelle « passer par la case échec ». Ce n'est pas agréable, mais il faut y passer. Il nous faut reconnaître notre incapacité, notre péché, notre misère, afin de recevoir la réhabilitation et la consolation du Seigneur. Comme je le disais en introduction, il s'agit de détourner nos yeux de notre situation propre et de lever notre regard vers le Seigneur qui vient. Alors nous pouvons attendre sa venue et l'accueillir dans la paix et la joie, au lieu de la honte et l'angoisse. Dieu vient faire toute chose nouvelle au milieu de son peuple, dans le monde et dans nos cœurs. Il nous appartient de faire de la place, en fait. D'ôter tout ce qui pourrait empêcher sa venue. Et cela commence dans nos propres pensées, dans nos choix, dans nos priorités. Alors si vous entendez ces paroles ce matin comme une obligation qui vous enferme et qui vous restreint, c'est que vous n'avez pas encore compris la grâce qui y est attachée. Parce que, au contraire, c'est un privilège et une bénédiction que d'être aux premières loges, d'être un serviteur appelé à déblayer, redresser, niveler, combler, bref, préparer la route au Seigneur. D'autant que le texte d'Ésaïe nous le dit, « La gloire de l'Éternel sera révélée et tout homme la verra. » Est-ce que vous parvenez à imaginer combien c'est extraordinaire? Ne voulez-vous pas goûter à l'avance cet événement? La gloire de Dieu peut déjà maintenant se révéler dans nos vies, dans la transformation opérée par le Saint-Esprit. Transformation à laquelle nous sommes quand même invités à participer activement. Dieu veut faire de nous son temple, de nouvelles créatures en qui sa gloire se manifeste. Et c'est d'autant plus incroyable quand on se penche sur la fragilité de l'être humain. C'est le troisième cri, que j'ai appelé la confiance, par la connaissance de qui est Dieu. Oui, l'homme est comme l'herbe. Ça nous a été rappelé déjà dimanche dernier avec le psaume 90 qui reprenait les mêmes mots. L'homme est faible, fragile, mortel, pécheur. Il est inconstant. Il est peu fiable. Il croit mal. Il aime mal. Il pardonne mal. Bref, il est décevant. Et il est d'autant plus décevant quand on regarde à Dieu qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, et qui a trouvé cela très bon au départ, et qu'il appelle à la communion avec lui. Tout ça avant la chute, hein. Mais justement, cette affirmation que la parole de Dieu est éternelle et la prise de conscience que Dieu est saint, majestueux, glorieux et souverain, eh bien ce sont des bonnes nouvelles qu'il nous faut réentendre et proclamer à notre tour. Cela veut dire que Dieu est digne de confiance, et même qu'il est le seul à l'être, en réalité. Sa parole est ferme, pérenne, crédible. De plus, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Alors quand on regarde à Dieu, on n'a pas à rougir, on n'a pas à douter, on n'a rien à craindre. L'Éternel est vivant, et parce qu'il nous aime, il nous a rachetés en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à notre place pour payer la dette que nécessitait notre péché. Qui accusera les élus de Dieu, dit Paul. Dieu les déclare justes. Voilà pourquoi, si nous voulons être heureux, nous devons connaître et méditer ces réalités. Nous étions perdus et Dieu nous a sauvés. Nous n'avons aucun mérite là-dedans. Et nous ne pouvons rien faire de plus ou de moins pour faire changer l'amour de Dieu pour nous, dans un sens comme dans l'autre, hein, pour qu'il nous aime plus, ou au contraire, on fait tellement de choses pas bien qu'il va nous aimer moins. Non. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit Paul aux Éphésiens, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné une nouvelle identité. Il nous appelle ses enfants. Il nous fait participer à sa vie éternelle. Il nous prépare une place dans son royaume. Il nous fait co-héritiers de toutes ses richesses avec le Christ. Comment ne sommes-nous pas plus rayonnants? Comment ne sommes-nous pas plus rayonnants en tant que chrétiens? Avons-nous saisi la grâce? Nous devrions rayonner, vraiment. Et comme je le disais en introduction, le principal problème à ce manque de rayonnement tient au fait que sans cesse nous sommes ramenés à nous-mêmes et à la misère qui nous entoure par les infos ou d'autres choses. Et je crois qu'il nous faut être plus vigilants. Nous devons quelque part nous discipliner pour nous forcer sans cesse à tourner nos regards vers le Christ, pour contempler Dieu dans sa majesté, pour adorer l'Esprit de vérité. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il annonce et ce qu'il promet, ce sont des bonnes nouvelles. Et c'est le quatrième cri. La parole est de retour. Dieu vient, va le crier sur les toits. Oui, Dieu, en son Fils Jésus, vient accomplir ses promesses de grâce et de paix. Élève avec force ta voix, dit le texte. Voici votre Dieu. Le Seigneur vient avec puissance, souveraineté, salaire et récompense. Pareil à un berger, nous dit le texte, il va s'occuper de vous, il va porter dans les bras, il va conduire. Bien sûr, pour nous qui vivons entre les deux venues de Christ, cette parole résonne d'une manière toute particulière. Ça résonne là. Nous savons que Dieu est déjà venu. Il s'est incarné par son Fils, Jésus. Ça, c'est attesté C'est une parole certaine parce qu'elle est accomplie. Et l'incarnation de Dieu est un mystère qui nous dévoile sa gloire comme le chantent les anges aux bergers. Nous l'avons rappelé il y a quelques semaines à peine, lors de la fête de Noël. C'est un mystère, là aussi, que nous n'avons pas fini de sonder et dont nous n'avons pas fini de nous émerveiller. Dieu est venu volontairement vivre parmi nous. Il a restreint sa gloire pour prendre chair humaine. Et il l'a fait par amour, afin de mourir pour nous, l'objectif. Et de mourir de la manière la plus ignoble qui soit, sur une croix comme un brigand. Par sa mort, il nous offre le pardon et la réconciliation. Par sa résurrection, il nous offre la justification et la vie éternelle. Alors si nous n'avons pas encore reçu ces vérités pour nous-mêmes, eh bien l'Écriture dit c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous pouvons dans notre cœur parler à Dieu et lui dire « Je crois, Seigneur, que tu es venu en ton Fils Jésus mourir pour mon péché. J'ai besoin d'être sauvé. Je veux t'appartenir. » Pour la majorité d'entre nous qui sommes réunis pour entendre la parole du Seigneur dimanche après dimanche, nous savons ces choses. Même si parfois nous oublions, je crois, de nous en émerveiller et d'être reconnaissants. Jamais nous ne devrions nous habituer à cette bonne nouvelle, au point d'en être blasés ou même tout simplement insensibles. Au contraire, chaque jour donné est une occasion d'adorer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans nos vies, comme aussi pour ce qu'il fera. Oui, car nous ne devons pas oublier que Christ reviendra. Il l'a promis et cette parole est aussi certaine que tout le reste. Parce que ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Dieu vient pour juger la terre et faire éclater sa gloire et son règne d'amour et de paix. Ce jour-là, tout œil le verra. Tout genou fléchira devant notre Dieu saint, majestueux, glorieux et souverain. Pour résumer et nous introduire à l'étude biblique de cet après-midi, qui parlera de la Trinité, Dieu le Père parle et décide du temps, des projets, des événements. Dieu le Fils accomplit l'œuvre de justice et de rédemption par l'incarnation, la croix, la résurrection. Il est ici déjà présenté comme le bon berger. Dieu le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Il nous console, il nous enseigne, il nous transforme. Le Dieu trois fois saint révèle sa gloire et tout homme la verra. Que cela soit pour nous un émerveillement, que Dieu fasse de nous des adorateurs et des adoratrices, qu'il nous donne de le contempler chaque jour et en toute occasion. Amen.